Et bienvenue à tous dans ce quatrième épisode du podcast d'Alliance Digitale. Je suis François Quérel, je suis directeur de la rédaction de The Media Leader. Et je vous propose ce rendez-vous devenu incontournable pour tout savoir sur le marketing digital avec un décryptage d'une actualité en partenariat avec Alliance Digitale. Aujourd'hui, on va parler d'un grand sujet, un sujet extrêmement important, c'est l'emploi dans les métiers du digital, avec notamment une étude qui vient d'être publiée par Alliance Digitale, qui s'appelle Anatomie de l'emploi, qui a été commandée par Alliance Digitale à Illigo. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Olivier Goulet, le patron fondateur d'Illigo. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et puis pour nous aider à décoder, à peut-être projeter ces résultats de cette étude extrêmement riche, extrêmement importante dans la vraie vie, entre guillemets, j'ai le plaisir de recevoir un des grands professionnels de la formation, Yann Gabel, fondateur d'Origami. Bonjour Yann.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On va ensemble essayer d'analyser ces grandes tendances. Alors on ne va pas rentrer dans les détails des chiffres, vous retrouvez évidemment l'ensemble de cette étude sur le site d'Alliance Digitale. Elle fait 126 pages, donc elle est extrêmement riche. Alors, on me dit qu'il y a les annexes dedans. Mais malgré tout, ça va vous aider à nourrir aussi votre politique RH salariale, puis aussi votre relation, notamment avec les jeunes générations, mais pas que, avec vous en tant que manager, en tant que recruteur, mais aussi, et on s'adresse aussi à ces étudiants, ces jeunes professionnels qui se posent des questions sur le recrutement dans les métiers du digital. D'abord, on va parler un peu du contexte, Olivier. Chez Illigo, vous avez été chargé de conduire cette étude anatomie de l'emploi. Comment ça s'est passé d'abord pour, comme on dit, cadrer finalement le besoin d'Alliance Digitale? Comment elle s'est fait la rencontre? Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans, disons, la conduite de cette étude?
Alors, il s'agissait d'une étude qu'on a menée en miroir. Ce qu'on appelle en miroir, c'est qu'on a interrogé d'une part des RH, effectivement, et des responsables au sein des entreprises de l'Alliance Digitale. Donc ça, c'était des entretiens individuels. Et puis de l'autre côté, on a interrogé un nombre plus important, effectivement, de jeunes étudiants, pratiquement sur la même questionnaire, la même méthodologie, pour voir ce qui matchait ou ce qui ne matchait pas, puisque le constat sur le marché est qu'effectivement, les deux sont un peu inquiets, en tous les cas, et les recruteurs de comment recruter, et les jeunes diplômés de comment vont-ils se faire recruter.
Alors, effectivement, en miroir, d'un côté des professionnels et d'autre côté les recrutés. Alors, on va justement parler d'abord de cette perception, puisque finalement, dans le marché de l'emploi, la perception a énormément d'importance. On voit notamment que dans cette étude, les conditions de travail, à savoir la flexibilité, la rémunération juste et l'ambiance de travail positive sont essentielles pour 9,2 jeunes sur 10. On parle cette fois-ci des recrutés. Alors, ça peut paraître un peu une lapalissade en se disant on n'a pas envie de vivre un emploi où il y a des thénardiers enfermés dans une prison au fin fond d'oubliettes, payés avec trois morceaux de pain, on va dire, et trois cacahuètes. Mais finalement, là-dessus, est-ce que ça résume assez, toi, de ton côté, Olivier, ce qu'attendent les jeunes? En fait, ils ne veulent pas d'un côté non plus que ce soit la colonie de vacances, mais de l'autre, ils ne veulent pas non plus être enfermés dans une oubliette payée avec du pain sec.
Alors effectivement, les conditions de travail sont la première condition demandée. Ça, quelque part, tout le monde l'attendait et en tous les cas, et les recruteurs et les recrutés sont à peu près d'accord. Ce qui était plus surprenant, effectivement, c'était sur les conditions et les attendus. Nous, ce qui nous a en tous les cas frappé, c'était que du côté des recruteurs, on avait des process qui étaient très fonctionnels, en tous les cas, et très rationnels, alors que du côté des recrutés, donc cette jeune génération, qu'on appelle la Gen Z, ils étaient beaucoup plus dans de l'émotionnel et dans la compte d'une rencontre, de relationnel, voire presque d'avoir en tous les cas cette logique un peu affective de la première relation, d'avoir envie de venir en tous les cas dans l'entreprise. Et ça qui n'est pas toujours respecté par rapport au process que toutes les sociétés ont mis en place, qui sont souvent des process assez rationalisés et on ne va pas tout le temps, en tous les cas, être sur des choses qui sont très ambitieuses, en tous les cas, relationnellement.
Il y a les idées reçues qui veut dire qu'à un moment, il y a deux générations qui se parlent, celle de la Gen Z qui veut du loisir, pas travailler, faire du télétravail, avoir une fluidité, être bien payé, pouvoir partir, revenir, pas avoir de contraintes. Puis de l'autre côté, des recruteurs ou des professionnels qui sont un peu plus âgés, qui eux tambourinent et à qui on a appris qu'il fallait beaucoup travailler, être besogneux. Est-ce que finalement cette idée reçue, elle se voit dans la réalité quand on est sur un vrai terrain d'enquête avec un questionnaire construit sérieusement, comme vous l'avez fait avec Illigo ?
Alors, ça se voit un peu, certaines idées reçues se retrouvent. Par contre, on a des choses aussi qui sont un peu différentes en la matière. Sur la flexibilité, c'est évident. Ils attendent de la flexibilité, mais pour eux, c'est presque quelque chose qui leur est dû. Donc, quelque part, ils ne voient pas ça comme un apport. C'est que si ça n'existe pas, de toute façon, ils ne viennent pas.
Donc, ça veut dire que dans les annonces, on en parlera d'ailleurs un peu après sur la construction d'une annonce. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans une annonce ? Mais quand on voit des annonces en disant télétravail possible, finalement, ça fait un peu sourire, puisque en fait, finalement, on ne peut pas envisager, notamment dans le digital, qu'il n'y ait pas de télétravail.
Eux ne l'envisagent pas, en tous les cas. Donc, ils sont, en tous les cas, dans cette attente qui est absolument normale. C'est comme si on leur disait, vous travaillez 5 jours par semaine, enfin, sur un contrat, ils vont se dire, bah oui, c'est normal.
Ou qu'il y a une mutuelle, ou qu'il y a les frais de transport pris en charge.
Voilà, donc...
Il va falloir donner un peu plus.
Hein. Pour eux, voilà. La deuxième attente qui est plus inattendue, c'est que les recruteurs voient l'image de l'entreprise comme étant extrêmement importante pour des jeunes recrutés. Et en fait, ça n'est pas tant que ça. Les jeunes recrutés voient surtout avec qui ils vont travailler, dans quelle équipe, concrètement, ils sont très, très concrets, très pragmatiques, cette génération, en tous les cas pour partie, sur effectivement avec qui je vais travailler, qui sera mon supérieur direct, qui va me coacher, avec qui au quotidien je vais interagir. Et ensuite, on le voit, ils sont très, très attachés aux gens, et d'ailleurs plus attachés aux gens fondamentalement qu'à l'entreprise. Donc là, il y a une petite dissociation entre les deux, où les recruteurs pensent que les gens viennent pour l'entreprise, si je caricature, quand les jeunes viennent pour les gens avec qui ils vont directement travailler.
On parle d'un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, mais ça fait peur quand on est un recruteur, qu'on cherche de la productivité, quand on recrute quelqu'un qu'on a envie, effectivement, qu'il remplisse des objectifs, qu'il soit productif, de commencer à dire, mais moi, je recherche un équilibre entre ma vie professionnelle et vie personnelle. Ça veut dire qu'à un moment, à partir d'une certaine heure, je vais rentrer chez moi, je vais aller boire des coups avec des copains, mais j'ai pas envie forcément de travailler jusqu'à minuit tous les soirs.
Alors, très honnêtement, depuis le Covid, je pense que cet équilibre vie personnelle, vie professionnelle n'est pas que sur les jeunes. Elle s'est étendue bien au-delà. Et j'aurais tendance à dire que même si on voit dans d'autres pays, si vous allez en Australie, par exemple, y compris les cadres très supérieurs, à 17h30, ils ont fini et ils rentrent chez eux s'occuper de leurs enfants. Et donc, ils recherchent cet équilibre. Et je pense pas que c'est pour ça qu'ils sont moins productifs. Je pense que l'attente a vraiment changé. Et là, c'est pas que sur les jeunes, pour le coup. Alors, pour les jeunes, là aussi, c'est un attendu de base.
L'inversion des rôles entre recruteurs et recrutés, on a eu l'impression quand même, notamment après le Covid, puisque notamment dans le digital, un certain nombre de personnes ont quitté ce métier. Alors certains ont eu des vocations ésotériques, on va le dire. En tout cas, vous voulez quitter ce métier-là. Est-ce que c'est quelque chose qu'on remarque encore ? C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, c'est le recruté qui mène la danse et le recruteur qui doit finalement s'adapter, ou est-ce que les choses sont quand même beaucoup plus équilibrées que ça ? Je poserai la question aussi à Yann qui pourra me donner son analyse.
Alors, de ce que l'on a vu, c'est qu'il y avait une crainte des deux côtés, bizarrement. C'est-à-dire que nous, on s'attendait, effectivement, les recruteurs, quand on les a vus, ils nous ont tous dit, oui, quand même, les jeunes, aujourd'hui, ils ont le pouvoir. En tous les cas, c'est dur de les recruter. Et quand on a vu, effectivement, les jeunes, eux-mêmes étaient un peu inquiets. Et je pense que ça vient du fait que chacun est un peu dans son entonnoir avec des demandes extrêmement précises sur ses attentes. Et que forcément, chacun coche un certain nombre de cases qui sont, moi, je veux tel type de jeune diplômé avec tel diplôme qui sache faire exactement ça. De l'autre côté, il y a des jeunes diplômés qui arrivent avec, moi, je veux un minimum de salaire comme ça, je veux des conditions et je veux qu'il y ait 3 jours de RTT, dont le vendredi. Et donc, par rapport à ça, avec des choses aussi coincées, la négociation est forcément plus compliquée.
Yann, cette inversion entre recruteur et recruté, toi qui formes des managers, mais aussi qui formes des jeunes, en tout cas des jeunes professionnels, c'est quelque chose que tu as vu sur ces dernières années ?
Alors, nous, on forme surtout des opérationnels. Donc, du coup, on est confronté à ça. Je dirais, en fait, il y a deux phases. Il y a une première phase qui est rentrer dans ce secteur. Et là, la tendance, elle est toujours que c'est très difficile de rentrer dans ce secteur. La première expérience, elle est vraiment très difficile à avoir.
Donc, c'est-à-dire que là, effectivement, si on pouvait donner un conseil à des jeunes, c'est de dire, vous pourrez être exigeant sur votre deuxième expérience, mais sur la première, lâchez un peu du lest.
C'est qu'en fait, ils n'ont pas trop le choix. Et nous, on a quand même des jeunes et des un peu moins jeunes qui se font 3 mois de formation intensive, donc qui subissent nos affres pendant 3 mois, rémunérés par France Travail, donc 500 balles par mois quand on est en formation, ou alors à la RE, et ensuite qui repartent 12 mois d'alternance, rémunérés au SMIC ou un peu moins. Donc là, on peut pas dire qu'ils aient des exigences démesurées, parce qu'ils sont prêts quand même à sacrifier 15 mois de leur parcours pour ensuite avoir accès au Graal. Et donc, du coup, une fois qu'on a fait ça, bah après, on peut être exigeant, en fait.
Donc là, on parle plutôt des primo-recrutés. Peut-être que ça devient... ils deviennent beaucoup plus bankable quand ils ont 4, 5
Exactement.
Ans d'ancienneté. Hein.
Exactement. Même 2 ans. 2 ans, en fait, ça y est. 2 ans d'ancienneté, une année et demie d'expérience. Nous, nos alternants se font chasser. Donc, 2 ans d'ancienneté, 6 mois d'expérience, 1 an et demi dans une bonne expérience, une bonne alternance ou un bon première expérience. Franchement... ça y est, on est bankable à fond.
Donc les choses n'ont pas tellement changé, puisqu'on a toujours l'image du stagiaire dans une banque d'affaires en Angleterre qui est mort après ne pas avoir, je crois, dormi pendant 3, 4, 5 jours. Il y a tout un tas de films là-dessus aux États-Unis. C'est une réalité, c'est-à-dire qu'à un moment, la première ou la deuxième année, il faut quand même trimer.
Alors non, par contre, c'est très difficile de rentrer, mais par contre, ils ne sont pas prêts à faire les sacrifices que nous, à la limite, on aurait fait bêtement il y a 20 ans. Ou 25. Non, ça par contre, ces sacrifices-là, c'est fini. Ça, c'est définitif.
Même quand ils sont totalement débutants et qu'ils ne connaissent rien.
Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas et ils ont raison. Ils ont raison, c'était complètement fou. Et d'ailleurs, je rejoins complètement sur l'aspect productivité, le présentéisme dans lequel nous, on était quand on était plus jeunes, en fait, aujourd'hui, il n'a plus aucun sens. Il n'a plus aucun sens. On a un travail, on a des missions. Et d'ailleurs, ça rejoint un point de l'étude qui est clé, c'est les managers. C'est que si les managers sont bons, s'ils sont bien formés et s'ils savent donner des objectifs clairs et précis, on sait mesurer la productivité de quelqu'un sans avoir à compter le nombre d'heures qui passent dessus.
Mais ça, c'est aussi autre chose, et on en parlera juste après, c'est le rôle encore plus important avant que le manager, une fois qu'on a recruté. Si vous le voulez bien, on va parler notamment de cette phase de recrutement, parce que c'est quand même la chose la plus importante, qu'on soit un recruteur ou un recruté. Comment arriver à avoir la bonne rencontre, puisque les exigences sont augmentées d'un côté comme de l'autre. De l'un côté, le recruteur, il a besoin de productivité, de gens impliqués, une personne qui coche toutes les cases. Et puis le recruté, il veut aussi être sûr qu'il va s'épanouir correctement au-delà de l'aspect salarial, et en tout cas que ça va matcher avec l'état d'esprit de l'entreprise. Et là, on va parler de bonnes pratiques pour le recrutement, notamment l'importance de l'annonce et du processus d'entretien. Alors, moi, à l'époque, on envoyait des CV avec des lettres de motivation qui étaient un peu toutes coupées. Alors, on disait qu'il fallait les écrire à la main, etc. Aujourd'hui, on en est où, que ce soit quand on est un recruteur ou un recruté? Quelles sont les bonnes pratiques, finalement, pour que la bonne rencontre se fasse? Je ne sais pas qui des deux peut répondre.
Commencer, en fait. Aujourd'hui, nous, on voit passer beaucoup, beaucoup d'annonces et de recruteurs. On en est encore au bon vieux CV, etc. Ça,
il faut toujours faire un CV ou pas?
Complètement. Ça n'a pas changé. On a un mal.
Donc un Word un peu sympa.
Un Canva maintenant.
Oui, Canva, effectivement.
Mais en fait, on a tous les recruteurs recrutent sur CV. Nous, on recrute sans CV nos apprenants. On les sélectionne sans le CV, mais à un moment donné, on est obligé de leur faire un CV. Enfin, ils en ont un, mais on est obligé de l'améliorer pour qu'ils passent auprès des recruteurs. Aujourd'hui, on a encore un gap là-dessus à passer qui est dingue et un apprentissage
sans
à faire.
Sans faute d'orthographe, évidemment.
Alors malheureusement, ça c'est compliqué aussi. Mais c'est vraiment un point qui est clé. C'était en fait recruter un junior sur son CV, au final, ça a très peu de sens. Parce que bien évidemment,
Les vendanges, il a fait la caisse à Monoprix, voilà. C'est ça.
Alors en fait, on recrute sur quoi? On le recrute sur l'école qu'il a fait et la capacité qu'il a à rédiger un beau document. Voilà, point. C'est ça les deux qualités qu'il faut pour faire un beau CV. Et or, aujourd'hui, du coup, ça réduit considérablement le bassin de recrutement. Ne serait-ce que l'école, déjà, c'est une réduction. La capacité à faire un beau document, c'est encore autre chose. Ça reste. Je pense qu'il y a des outils qui commencent à arriver sur le marché, comme Gochaba, comme Assess First, comme d'autres, Performance, etc., qui sont là pour mesurer les compétences, les capacités des personnes, comme Prouvi, qui fait ça aussi, alors plutôt sur des compétences techniques. Et donc, pour mesurer où les soft skills ou les hard skills des personnes. Et ça, là, c'est vraiment un point intéressant sur lequel les recruteurs devraient plus se pencher aujourd'hui. Mais pour l'instant, on en est encore aux vieilles méthodes. Par contre, du côté des recrutés, on se plie aux vieilles méthodes, mais on continue de dire qu'on ne comprend pas ces méthodes-là parce qu'on envoie des CV, on n'a jamais de retour, on passe des entretiens, on ne nous fait pas de feedback. Donc, en fait, les méthodes n'ont pas tellement changé.
Et le rôle de LinkedIn aujourd'hui, alors, il y a effectivement deux choses. Il y a les primo-recrutés qui n'ont pas grand-chose à raconter sur eux-mêmes. C'est toujours la même question. Qu'est-ce que je vais raconter? J'ai rien à dire. Et puis, il y a ceux qui commencent à être un peu plus expérimentés, 2, 3, 4, 5 ans d'expérience, où eux, ils ont déjà des choses à raconter. Quelle est l'importance du profil LinkedIn?
Ah ben, partout, par exemple, pour tous, c'est clé. Et dans le profil...
Donc on a un bon profil, on a une photo, enfin des choses de base
et,
en fait.
Il y a des choses de base et puis il y a des
puis
choses...
Puis pas une photo sur la plage.
Exactement, et pas la photo du mariage aussi.
Ouais.
Là, il y a des choses qui sont faciles et puis il y a des choses un peu plus complexes. Le bon profil, ça a l'air facile, ça l'est pas tant que ça, mais en tout cas maintenant avec GPT et les autres, c'est plus facile. Par contre, il y a un truc qui est hyper important, c'est que quand on va stalker quelqu'un sur LinkedIn, on regarde aussi son historique de poste. Aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce qu'il a posté, parce qu'autant c'est facile d'avoir un bon profil, autant regarder ce que la personne postait, c'est autre chose.
Là, il faut pas que le parcours, il y a aussi son activité, cette capacité à s'intéresser au sujet, à répondre.
Exactement.
Et ça, c'est,
nous, on incite énormément nos apprenants à prendre la parole bien avant d'être recrutés.
On va se mettre à la place des recrutés. Comment on rédige une annonce aujourd'hui pour qu'elle soit efficace et qu'elle attire l'œil? Alors, on disait tout à l'heure l'argument de dire « c'est bien, il y a du télétravail dans l'entreprise, la mutuelle est prise en charge, oui, c'est obligatoire. Les frais de transport sont prêts à 50%, oui, c'est obligatoire aussi. » Qu'est-ce qu'on y écrit dedans? Comment on fait rêver? Je sais que dans l'étude, il y a... beaucoup de choses autour des valeurs de l'entreprise, par exemple. Quel management? Comment on raconte l'histoire de l'entreprise, finalement?
Alors, sur les valeurs, ce qu'on a observé, malgré beaucoup de choses qu'on peut lire, c'est pas si important que ça, en tous les cas, sur les valeurs de l'entreprise globalement. Les valeurs des gens avec qui on va travailler, certainement beaucoup plus. Donc, il faut faire de la proximité. Nous, on a été assez frappés, on a fait un parallèle, en fait, entre la première rencontre et une rencontre amoureuse. C'est-à-dire que les gens sont un peu inquiets et en gros, ils ont envie d'être séduits lors de ce premier... Enfin, tous les gars, les jeunes ont envie d'être séduits pour ce premier entretien. Or, souvent, le premier entretien est très rationnel, très fonctionnel, donne pas très envie. Après, éventuellement, ils vont...
C'est un peu une présentation un peu administrative, la fiche about du site en fait.
Et puis souvent ils rencontrent les RH, c'est-à-dire pas les gens avec qui ils vont travailler, donc ils vont leur vendre quelque part l'entreprise en général, mais pas directement leur poste ou les managers.
C'est un peu la plaquette.
Eux, ce qu'ils aimeraient, alors je dis pas que c'est forcément possible, notamment dans les grandes entreprises, mais ils aimeraient rencontrer directement en premier les gens avec qui ils vont travailler. Un peu parler à bâton rompu et en tous les cas en ressortir avec le fait de se dire « Ah, j'ai envie de travailler avec ces gens-là. » Voilà. Parce que mon manager a l'air sympa, parce qu'il a l'air très compétent, parce qu'il a une belle carrière derrière lui et qui va m'aider à progresser. Donc, ils sont aussi dans cette vision. Mais on est d'abord dans quelque chose de « Est-ce que ça me donne envie ? Est-ce que les gens avec qui je vais travailler sont des gens avec qui j'aurai envie de me lever le matin ?» et d'y aller. Et après, une fois qu'ils ont ça, au premier entretien, ils auront envie de revenir éventuellement, de passer les tests, de faire... Ils comprennent bien que derrière, il faut rassurer l'employeur. Mais si dès les premiers entretiens, et souvent, il y en a beaucoup, dans certains postes dans le digital, il peut y avoir 4, 5. Et c'est pour ça que certains se plaignent, par exemple, du ghosting. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils répondent plus. Mais c'est juste qu'ils sont lassés. Au bout de 4 fois, ils se disent, non, franchement, ça devient trop lourd. Et donc,
ils sont peut-être chassés de leur... ailleurs.
Et c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que quand tu parlais tout à l'heure de LinkedIn, on est exactement comme les applis de rencontre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils n'ont même plus besoin de chercher, c'est-à-dire qu'en fait tombent sur leur compte en fait des offres qui arrivent directement.
Et ils se comportent... Il suffit de cliquer candidature simplifiée.
Et ils se comportent comme des consommateurs, ils disent « Oh oui, ça a l'air pas mal, tiens, pourquoi pas essayer, je clique dessus. » Et donc, ils ont un comportement de consommateur vis-à-vis de l'emploi et ça, les employeurs aussi doivent en tenir compte.
Alors, il y a deux choses que je retiens peut-être à donner aux recruteurs, c'est n'hésitez pas à être tout de suite dans la vie réelle. Donc peut-être imaginer un processus de recrutement où d'abord ils vont rencontrer leur manager, leur futur collègue, et ensuite peut-être les RH. C'est ce que je retiens.
Même au niveau de l'annonce, en fait, on peut déjà au niveau de l'annonce indiquer le style de management, la manière dont ils vont être onboardés, comment on accompagne les gens dans cette entreprise, les perspectives qu'on peut avoir en fait. Cross levier ou expertise, etc.
Perspective d'évolution en disant, d'ici 2-3 ans, vous pouvez prendre un poste de manager.
Oui, alors ça, typiquement, prendre un poste de manager, c'est plus forcément aujourd'hui la vision qu'a
un
jeune du futur, en fait. Et donc, du coup, l'évolution, elle va être salariale, elle va être verticale parfois, mais elle peut être aussi horizontale. Je peux évoluer en faisant plus de choses.
Un mot du ghosting, ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, d'un côté comme de l'autre, hein, c'est-à-dire le recruteur qui à un moment donne plus de nouvelles, voilà. On vous tient au courant, puis jamais de nouvelles, on a fait 3 entretiens, jamais de nouvelles. Et puis de l'autre côté, on l'a tous vu, hein, on signe un contrat de travail, personne ne se présente jamais, ça c'est quelque chose d'extrême. Comment vous l'expliquez l'un et l'autre, ça? C'est la mode Tinder, c'est ça? C'est-à-dire on zappe facilement?
J'ai du mal à le comprendre, hein, honnêtement, pour être tout à fait honnête.
Mais d'un côté comme de l'autre, voilà, d'ailleurs. Alors,
côté recruteur, pour l'avoir vécu, je sais que c'est surtout lié à un flux continu de candidatures et que faire une réponse.
Oui, mais aujourd'hui, avec l'IA, on peut répondre, enfin, au moins.
Ouais, on n'en est pas encore. Ouais. Oui, dans la possibilité, mais dans l'usage, ouais. C'est encore pas tout à fait ça. Mais je pense que ça y joue beaucoup. On n'a peut-être pas investi autant qu'on aurait dû sur les ressources qui recrutent. Et elles n'ont peut-être pas assez de temps pour le faire bien. Côté candidat, j'avoue que aujourd'hui j'ai un peu du mal à... Alors, il y a les candidats qui disent oui parce qu'ils ont peur de louper autre chose et puis entre-temps ils ont autre chose et donc du coup bah ils sont
donc
un peu
gênés. Tinder.
Voilà,
on se fait des dates et puis à un moment il y a quelqu'un qui nous plaît, on arrête tout puis on répond pas.
Et voilà, ou on quitte par SMS mais sinon globalement il y a des candidats qui se présentent pas en entretien et ça j'avoue je aujourd'hui j'ai pas d'explication.
On en a beaucoup parlé, c'est la fidélisation ensuite, parce que recruter, ça coûte cher, c'est long, c'est beaucoup d'investissements. Comment on fidélise pour que, voilà, effectivement, d'abord, on puisse convaincre de venir, mais qu'on puisse convaincre de rester là-dessus, l'importance du bien-être au travail, l'implication des employés dans le projet, la collaboration, pas forcément la compétition. Qu'est-ce qu'on retient, Olivier, dans l'étude par rapport à tout ça ?
On retient d'abord que le salaire est très important sur la partie rétention. Donc ça, c'est
quand même... qu'il faut très rapidement donner des perspectives.
C'est pas très rapidement, mais qu'en tous les cas, les conditions de travail pour l'embauche sont importantes. Mais les conditions de travail, c'est le lieu où on est, le décor, l'ambiance, et voilà. Dès lors qu'on est dans le poste, tout ça, on le connaît. La seule chose qui peut vraiment changer, c'est son salaire. Donc ça, c'est quand même un point extrêmement important. Le deuxième point extrêmement important, c'est toujours les gens avec qui on va travailler. On va d'abord être attaché à une équipe, à des relations, et on va se sentir redevable plus d'ailleurs vis-à-vis de son équipe ou de ses clients que vis-à-vis de l'entreprise. Et ça, il faut quand même en tenir compte par rapport à ça. Et comme le disait Yann aussi tout à l'heure, il faut les faire évoluer sans leur faire peur. C'est une génération qui n'a pas très envie de manager.
Alors on va en parler dans un instant justement, voilà. Parce qu'à un moment, il faut bien des gens qui managent.
Alors, il en faut, mais en tous les cas, il ne faut pas leur vendre comme ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas leur dire « Ah, super, dans 3 ans, si tu bosses bien, tu seras manager. » C'est le meilleur moyen de leur faire peur et qu'ils aient envie d'aller voir ailleurs pour acquérir des compétences.
Donc, alors, moi, je suis une ancienne génération qui a démarré il y a 20-25 ans dans le milieu du travail. Et si on voulait gagner plus, il fallait devenir manager. Quitte à ce qu'on soit mauvais manager, d'ailleurs. On en a vu certains qui ont explosé en vol. Yann, là-dessus, comment répondre à cette question, à la problématique relevée dans l'étude d'Olivier, qui dit que finalement, les jeunes, ça les intéresse moins au global d'être manager, mais il y a un moment, on sait que c'est aussi une façon de franchir un gap au niveau salarial.
Complètement. Et Google avait fait une étude il y a déjà assez longtemps de ça, il y a plus de 10 ou 15 ans, en fait, où ils avaient montré les modes de management et les modes d'évolution salariale dans les entreprises anglo-saxonnes et d'autres cultures. En fait, il y a des... Aujourd'hui, dans tes boîtes de la tech, il y a des développeurs qui sont payés 2 fois plus que des managers, en fait. Parce qu'ils ont monté, parce qu'ils sont...
Ça, c'est spécifique au digital
Non, je sais pas.
Moi, dans ma tête, si on veut gagner plus, on est manager.
En fait, en France, on a cette vision que le salaire, il est divisé par rapport au nombre de gens qu'on manage. C'est-à-dire que si je manage 10 personnes, je peux gagner 10 fois ça en plus. Et donc, si j'en manage 20, c'est 20 fois. Et du coup, on se dit, OK, cette personne-là, elle est payée 100 000 euros, mais elle manage 20 personnes, donc je distribue ces 100 000 euros sur 20 personnes, finalement, par personne, ça va. En fait, ce calcul, il est pas bon du tout. Aujourd'hui, un bon profil commercial, par exemple, peut valoir 1000 fois plus qu'un manager si génère des revenus. Un bon trader qui produit vraiment bien d'un point de vue trader marketing peut aussi valoir 3 fois plus que son manager.
Ou un bon développeur qui a inventé l'application du siècle, par exemple, il vaudra beaucoup plus que son patron qui va aller chercher l'argent.
Exactement. Ou peut-être la même chose. Et donc, ça, il y a une évolution des cultures qui n'est pas encore là, à mon avis. En tout cas, je ne suis pas de l'autre côté dans les boîtes, mais je ne le vois pas aujourd'hui dans les élèves. Je vois encore que pour évoluer, il faut encore manager.
Et dans la tête du top management, c'est de dire qu'une personne experte de son secteur ne sera pas forcément un bon manager. Ça, Olivier, je crois que c'est quelque chose qu'on voit dans l'étude qui explique en partie le manque de motivation des jeunes pour devenir manager. C'est vrai qu'être manager, c'est quand même une galère et c'est un vrai métier. Enfin, moi, c'est mon cas. On passe son temps à régler les problèmes, tout le temps. Et c'est pas fait pour tout le monde.
En tous les cas, ça c'est la réalité. Il se trouve qu'à une époque, on avait envie de ça. En tous les cas, les gens qui étaient ambitieux avaient envie de ça. Et y compris maintenant, les gens ambitieux n'ont pas forcément envie de ça. Ils ont envie, alors là je vais prendre un parallèle, comme tout à l'heure je l'avais fait avec les relations amoureuses, plutôt avec le gaming, ils veulent des badges. Ce que j'appelle des badges, c'est acquérir des points de compétences dans différentes directions pour enrichir. Et ils sont en acquisition d'expérience. Hein, au démarrage, pas oublier qu'on parle de gens voilà, en démarrage de carrière. Et ça les importe beaucoup plus très vite d'apprendre plein de choses sur différents domaines, alors qu'ils sont connexes à ceux qui connaissent, plutôt que de se dire, au bout de 2 ans, je vais manager une équipe avec tous les problèmes qu'ils voient d'ailleurs sur les gens qui sont plus âgés qu'eux. Donc, en tous les cas, c'est pas ce qu'il faut leur vendre pour les faire rester, alors qu'il fut une époque, c'était ça. C'était, tu vas devenir manager, tu vas gagner un peu plus, et ça sera formidable.
J'adore ce parallèle avec le gaming, c'est génial. En fait, c'est vraiment ça. Du côté, à la fois du côté, vous en parliez dans l'étude, le côté dopamine du « je fais un truc bien, like », qui est pour nous très compliqué, pour notre génération, c'est très compliqué. C'est quelque chose de douloureux, parce que le feedback comme ça, positif en permanence, on a l'impression que c'est surjoué, on n'en peut plus. Et donc, c'est difficile, mais c'est nécessaire.
C'est le pouce plus, mais le pouce moins, il n'existe pas, en fait.
Alors ouais, ou le pouce moins, en tout cas, il faut bien le gérer, on va dire. Et la deuxième chose, c'est ce côté dark pattern des jeux, auquel on devrait s'habituer dans le travail aussi. Tous les jeux ont des dark patterns, des nudges, du truc. Par exemple, accéder à des cadeaux dans les jeux, c'est une échelle logarithmique. Le premier cadeau, il est très facile à avoir. Pour le deuxième, il faut faire 2 fois mieux. Pour le troisième, faire 10 fois mieux.
Il y a ce qu'on appelle l'effet plateau, hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment...
Voilà, mais je pense que les boîtes pourraient utiliser ces mêmes patterns, en fait, auprès de leurs salariés. Si la première augmentation, au lieu d'attendre un an, on l'avait au bout de 6 mois, mais qu'elle était beaucoup plus petite, et que du coup, ça nous donnait « Ah putain, c'est génial, j'ai déclenché un niveau. » Par contre, pour avoir l'autre, il va falloir donner un peu plus.
Donc être un peu malin et réfléchir de façon un peu algorithmique aux choses. Je voulais parler de la RSE, de l'importance notamment du côté des jeunes, la diversité, l'inclusion, des entreprises qui défendent, et ça revient un peu aux valeurs, mais pas les valeurs du business, mais c'est les valeurs globales, les valeurs humaines. Il y a... l'écologie, la diversité, l'inclusion, le fait que finalement on accepte tous les profils, hein, quelle que soit leur orientation, quelle que soit leur façon de voir la vie. Aussi, est-ce que c'est des éléments importants, Olivier, aujourd'hui? Est-ce qu'un recruté peut vraiment à un moment faire son choix par rapport à ça?
Alors sur un primo-recruté, moins que ce qu'on veut bien dire. Il va surtout regarder la façon dont il va être traité et dont on le traite, y compris lors du premier entretien, plutôt que de vivre des grands discours. Et pour les gens qui sont là depuis 2 ans dans l'entreprise, là, de toute façon, c'est l'expérimentation. C'est-à-dire, les grands discours ne marchent pas. Si on a vendu qu'il y avait de l'inclusivité et qu'ils se rendent compte qu'il n'y a rien qui est fait à l'intérieur de l'entreprise, le discours...
Ils partiront.
Je sais pas, mais en tous les cas, le discours sera creux. Et à nouveau, ils sont vraiment en attente de proximité par rapport à ça. Ils sont en attente de sens dans ce qu'ils font, eux, au quotidien, plus que ce que l'entreprise fait. Parce que, soyons clairs, dans le digital non plus, tout le monde ne sauve pas des vies. Donc, c'est des métiers du marketing. Donc, ils attendent du sens dans ce qu'ils font. Voilà, une responsabilisation par rapport à ce qu'ils font, mais pas forcément non plus des énormes valeurs. Et à nouveau, beaucoup de proximité dans les valeurs. Voilà, il faut que les gens avec qui ils travaillent représentent en tous les cas les valeurs qui leur ont été vendues au démarrage.
On va terminer, puisqu'on est arrivé bientôt au terme. Moi, je voudrais un peu, pour faire la synthèse, 2 choses importantes dont on a parlé tout au long. Après le Covid, c'est le travail à distance aussi et la rémunération. Aujourd'hui, est-ce que pour vous, ça reste 2 éléments qui sont centraux finalement dans la rencontre qui peut se faire entre un recruté et un recruteur?
Oui, l'aspect distanciel, l'aspect distance, l'aspect je peux travailler d'où je veux au moins quelques jours.
Les digital nomades, c'est pas d'hier, hein. On allait travailler à Chiang Mai en Thaïlande dans un hôtel à 10 balles la nuit et on faisait des calls développeurs.
Ouais, alors en fait,
ça existe plus, ça.
En vrai, il y en a, mais en fait, c'est une niche très médiatisée. Ouais. C'est surtout ça, quoi.
D'accord.
C'est une niche médiatisée. Donc, en fait, c'est la minorité visible. En vrai, concrètement, la majorité, ils ont envie d'être tranquilles. Par contre, vivre à distance, parce que les conditions de vie sont meilleures à distance, tout simplement par rapport aux métropoles. Et donc, oui, évidemment, vivre en dehors de Paris, ça coûte moins cher et j'aurai une plus grande maison,
etc. Oui, mais c'est quand même pas pareil pour un recruteur. de se dire que j'ai la personne sous la main, pas pour le fliquer, mais déjà pour être créative, c'est-à-dire la petite discussion qu'on a en buvant le café, en allant chercher à manger, en allant peut-être boire un verre le soir, elle est quand même pas la même que si on est derrière un FaceTime ou derrière un Teams.
Carrément pas, et je crois d'ailleurs que même au point de vue des recrutés, surtout quand on est junior, en fait, et ben le fait d'être à distance, c'est pas bon non plus pour le recruter. Il a envie, il veut, parce que c'est dans le principe, mais la réalité des faits, c'est que quelquefois, il se sent dans un mal-être, et il se sent un peu perdu, parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes réflexes, et qu'on peut pas aller demander tout de suite à la personne à côté de soi comment ça marche ça, et tiens là. Et qu'en fait, déranger quelqu'un sur Slack ou sur Teams pour lui demander un truc, c'est pas du tout la même chose que de lui taper sur l'épaule parce qu'il est à côté de vous, et du coup, on le fait pas. Et ça crée une distance qui petit à petit s'accumule et ça peut devenir...
Et la résolution des conflits est quand même pas la même à distance. Exactement. Que quand on est sur place et qu'on peut prendre deux secondes pour aller discuter. En
fait. Et le résultat, c'est que je suis pas accompagné. Mais c'est juste qu'en fait, j'étais pas là. Et donc, c'est difficile de t'accompagner. Et dans l'autre sens, le recruté qui est sur place, mais son manager qui est à distance, c'est exactement le même problème. Et quand on se retrouve avec des séquences de télétravail désynchronisées, et que en fait, dans une semaine, le recruté peut être là deux jours pendant que son manager n'est pas là, et le manager deux jours pendant que son recruté n'est pas là. Ce qui fait qu'en fait, vous le voyez un jour par
semaine. Donc, c'est remettre des règles qui permettent aussi de recréer la rencontre là-dessus. On va terminer sur le salaire. C'est quand même extrêmement important, le salaire, parce que ça veut dire beaucoup. C'est quoi la vision aujourd'hui du salaire, Olivier, dans ce que tu as vu ?
Alors, Yann l'a abordé un peu tout à l'heure, on est dans une logique du like un peu permanent. Ils sont tous sur les réseaux sociaux depuis qu'ils sont assez jeunes, et donc ils attendent finalement d'avoir des récompenses régulières et des félicitations régulières. Ça peut se comprendre. On le dit pas assez, effectivement, quand ils bossent bien, enfin certainement, et ils attendent dans tous les sens.
Toi, chez Idigo, tu le fais...
J'essaye de le faire comme Yann plus souvent que je ne le ferais naturellement. Voilà.
Donc c'est un peu artificiel.
C'est pas artificiel, c'est que globalement...
Je sais pas si les collaborateurs d'Idigo vont...
Je le crains, mais ils le savent en tous les cas que voilà, et il faut dire quand
tu n'es pas avare.
Mais il faut dire aussi souvent, plus souvent quand ça. Et ouais. Pour répondre à ta question, le salaire c'est à peu près la même chose, et je rejoins sur ce que Yann disait tout à l'heure. Il vaut mieux avoir cette logique de se dire, si tout va bien, au bout de 4 mois, tu auras une petite augmentation, que de leur dire, on va se revoir dans un an et peut-être que tu auras une augmentation et ton plan de carrière dans 2 ans, ça sera de passer à ça. Ils ne se projettent pas si loin, en tous les cas, au démarrage.
Ce qu'ils veulent, c'est leur bulletin de paye le mois prochain.
Et peut-être d'avoir une petite prime liée à je ne sais pas quoi, et peut-être d'avoir une sortie ou quelque chose. Enfin, ça peut être à la fois du salaire ou autre chose. Mais d'avoir quelque chose, et qui rejoint un peu cette logique du gaming. C'est pas le gaming, on n'a pas un truc qu'au bout d'un an, quand on a joué sur la plateforme, c'est en sans arrêt, et ça rejoint ce truc de dopamine, c'est-à-dire qu'il faut sans arrêt un peu stimuler l'envie, voilà. C'est notre société qui est comme ça.
Les anciennes générations ne comprennent pas forcément...
On avait peut-être moins de dopamine, je ne sais pas.
Je ne sais pas, l'augmentation avant 2 ans, on n'allait pas demander quoi que ce soit, puisqu'on savait qu'on allait se prendre une porte dans la figure.
Ça, moi, j'avais demandé quand même.
On demandait quand même, mais on avait peur.
Non, moi, j'étais team, je ne demande pas, j'avoue. J'ai pas pris de porte, mais parce que je n'ai pas demandé. Donc.
En tout cas, vous pouvez retrouver cette étude passionnante sur l'anatomie de l'emploi dans les métiers du digital. Elle est en accès libre sur le site d'Alliance Digitale. N'hésitez pas à aller la voir. Elle s'appelle « La nouvelle génération et le secteur du marketing digital » avec effectivement cette méthodologie qu'on a vue en miroir, d'un côté les recruteurs et les recrutés. Et je vous invite à aller la télécharger. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de ce podcast d'Alliance Digitale. Je remercie évidemment mes deux invités aujourd'hui, Olivier Goulet d'Illigo et Yann Gabet d'Origami. Et puis, merci également à l'équipe d'Alliance Digitale, et notamment Victoire Garé qui m'a aidé pour cet épisode. À très bientôt dans The Media Leader.